Donc, je m'appelle Guylain Mascot, je suis agriculteur à Bunicourt et j'ai 44 ans.
Donc, vous avez vécu plusieurs types d'agriculture.
Oui, alors en tant que paysan, et j'aime bien rappeler que je suis paysan, donc quelqu'un qui est artisan de sa terre. Et comme on l'a vu dans ce film, ce que je retiens moi et ce que j'ai pu vivre depuis 25 ans que je suis agriculteur et paysan, c'est qu'il faut concilier tous les avantages de les trois types d'agriculture qui existent, on va dire l'agriculture de conservation des sols, qui laisse un couvert végétal sur le sol qui capte le CO2, donc qui réduit l'impact climatique. Ça tend à se développer ces dernières années. L'agriculture conventionnelle, dite conventionnelle, qui elle aussi de plus en plus est verdie par la PAC, on appelle ça le verdissement, c'est-à-dire beaucoup de normes environnementales dans l'agriculture conventionnelle, c'est plus la même qu'il y a 30 ans. Hein, l'agriculture dite productiviste des années 70-80, c'est plus la même que l'agriculture conventionnelle d'aujourd'hui. On a des normes environnementales à respecter, on met des bandes enherbées le long des cours d'eau pour protéger l'eau, on met des couverts végétaux dès qu'on a fini de récolter le blé, et tout ça, ça participe à améliorer la vie du sol et donc à rendre les sols plus vivants et donc moins impactants pour l'environnement. Et après, il y a l'agriculture évidemment biologique dont on parle beaucoup dans les médias. Elle a des avantages et des inconvénients comme les deux autres types d'agriculture. Il n'y a aucune agriculture, je pense, de nos jours qui est totalement vertueuse, contrairement à ce qu'on pense. Hein, l'agriculture biologique fait beaucoup de choses pour l'environnement. Elle réduit en effet les pesticides, elle se passe de pesticides, mais elle utilise, on le sait, des métaux lourds comme le cuivre. Et on s'aperçoit que c'est un problème, à utiliser des métaux lourds dans le sol. Elle est obligée aussi parfois de labourer, puisque pour se passer de pesticides et de désherbants, le labour, c'est bien pour ça qu'il a été utilisé pendant de nombreuses années, permet de couper le cycle des mauvaises herbes. Hein, donc ça a un intérêt, même si ça dégage du CO2. Le tout, c'est comment on concilie les avantages et inconvénients des trois types d'agriculture. Et c'est ça le gros défi, mais je pense que c'est possible. Moi, je pense que pour avoir testé sur ma ferme les trois types d'agriculture, donc biologique pour les fruits et légumes, agriculture de conservation des sols, qui met des couverts végétaux sur les sols dès que les récoltes sont terminées pour éviter l'érosion, pour permettre à l'eau aussi de s'infiltrer plus facilement. Tout ça, il faut réussir à le concilier. Et je pense qu'il y a des atouts, pour en résumer, sur ces trois types d'agriculture. Il faut piocher un petit peu dans les bonnes idées, j'ai envie de dire, voilà, le bon sens paysan des trois types d'agriculture est nécessaire pour avoir une agriculture qui soit gagnante tant pour les consommateurs que pour les agriculteurs et les paysans que nous sommes.
Alors, pendant des années, j'ai vu ça dans les années 80, on a procédé à des remembrements, c'est-à-dire des petites parcelles, on enlève les haies, etc. Maintenant, la tendance est un petit peu inverse, mais le mal est quand même beaucoup fait. Et on parlait dans le film, notamment, de coulées de boue. Est-ce que c'est quelque chose qui augmente? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour, réfréner cette tendance?
Alors en effet, il ne faut pas le nier, il y a parfois des coulées de boue, j'ai envie de dire dues essentiellement quand même au phénomène climatique qui, on le sait, avec le changement climatique, est de plus en plus impactant. C'est-à-dire qu'avant, on en avait peut-être une fois tous les 20 ans, maintenant, on en a peut-être une fois tous les 5 ans, parfois plus, mais parfois, on en a tous les 2 ans, puis ensuite, on n'en a plus pendant 8 ans. Mais en moyenne, ces phénomènes extrêmes, les coulées de boue, les tempêtes d'ailleurs aussi, les vents de plus de 100 km/h sont de plus en plus impactants, on en a de plus en plus qui font des dégâts, tous ces phénomènes climatiques deviennent plus récurrents. Deuxièmement, évidemment, avec les remembrements, il y avait beaucoup de petites parcelles après la guerre. Alors, ça a été fait pour du bon sens, d'essayer évidemment, pour la mécanisation, de rassembler ces petites parcelles. Mais en effet, comme vous dites, ça, malheureusement, il y a des haies qui ont été retirées. Forcément, ça a des talus. Maintenant, on n'est pas en Beauce non plus. Non, mais je le dis ici, on a une chance dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est qu'on a encore des exploitations de taille relativement modeste et familiale comparée à d'autres départements ou d'autres pays dans le monde. Ça, faut le dire aussi. D'ailleurs, quand on regarde du ciel, on voit encore beaucoup de bosquets. Et même si on n'est pas la région la plus boisée de France, on a encore pas mal de petits boisements en timbre, comme on appelle ça, en timbre poste, on appelle ça. Mais on a encore de la chance dans nos régions. Maintenant, il y a de plus en plus de haies avec les collectivités, d'ailleurs en partenariat avec la Chambre d'agriculture. les haies se replantent. Hein. Il y a des partenariats qui se font pour replanter des haies. Donc, c'est en augmentation ces dernières années. Il y a une forte baisse, comme vous dites, après la guerre. Et on essaye tous de replanter des haies, de préserver les talus restants ou d'en remettre. Il y a aussi un petit peu de plantation d'arbres qui repart. Il faut savoir que la forêt et le boisement dans notre région, contrairement à ce qu'on pense d'ailleurs, est en augmentation ces dernières années.
Alors c'est vrai que la région Hauts-de-France a proposé aux habitants de planter des arbres. Elle en a offert, je ne sais pas si ce n'est pas 1 million d'arbres.
C'est ça, oui, le conseil régional avait, il y a déjà quelques années, fait un plan boisement. Alors, ça avait peut-être fait grincer un peu les dents parce qu'il l'avait présenté. Les agriculteurs pensaient que ça allait prendre des terres. Ça aurait pu d'ailleurs. Et bon, le but, en effet, je pense que c'est d'être intelligent et de reboiser aux bons endroits. Souvent, les professionnels d'ailleurs de la forêt disent il faut surtout renouveler la forêt. Ils disent qu'en fait, les forêts ne sont plus en bonne santé ou pas assez parce qu'on ne replante pas suffisamment tôt quand on fait des coupes de bois. Hein, tous les 20 ans ou 30 ans, c'est normal, c'est la nature, il faut faire des coupes de bois pour justement renouveler, parce qu'un arbre qui est renouvelé, un arbre vieux ne capte plus beaucoup d'azote à la fin. Tandis qu'un arbre replanté va être en bonne santé pendant longtemps et recapter beaucoup de CO2.
Alors justement, à l'occasion de ces reboisements ou ces replantations, on peut dire, l'évolution du climat fait peut-être que certaines essences sont plus intéressantes à planter pour l'avenir que d'autres.
C'est vrai, il faut faire attention à planter les bonnes essences qui sont adaptées à nos régions, qui sont des essences qui sont résistantes aussi aux maladies, puisqu'on voit qu'il y a des maladies du sud, hein, on l'a vu sur le buis, même si c'est pas la pyrale du buis, etc. On le voit sur d'autres arbres qui sont soumis à beaucoup de maladies qu'on ne voyait pas avant. Hein. Je sais plus si c'est des frênes ou des... Mais on a vu des reportages où beaucoup de bois et de variétés de bois sont décimées par des maladies. Donc en effet, il faut reboiser en faisant très attention à maintenir des variétés rustiques et le plus résistantes aux maladies naturelles, puisque les maladies viennent du climat, hein, et ça, le climat, on ne le maîtrise pas totalement.
De votre côté, vous constatez un réel réchauffement des terres, alors je ne vais pas dire forcément de l'air ou de la nuit, mais globalement des terres qui influent sur les cultures et peut-être des modes de culture d'espèces différentes. Par exemple, on parlait de la vigne qui pourrait bien arriver plus largement en région Hauts-de-France.
Oui, c'est vrai. Alors, qui l'eût cru qu'on planterait de la vigne dans les Hauts-de-France? Moi-même, j'ai des amis qui ont commencé à planter 2 hectares. Alors voilà, hein, c'est pas des centaines d'hectares. Mais dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme notamment, et un petit bout de l'Aisne, il y a des plantations sur des coteaux bien ensoleillés. Hein, puisqu'il y a des coteaux dans nos régions, c'est pas que le plat pays. Et sur ces coteaux-là, sur des terres qui s'y prêtent, il y a des plantations de vignes. D'ailleurs, les premières récoltes ont été faites, je pense, cette année et même l'an dernier pour la première. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus. On avait dit que le vignoble remonterait dans 50 ans de 250 km. Moi, je l'avais entendu ça il y a 10 ans. Vous voyez, les experts en climat disaient, allez, dans à peu près 40 à 50 ans, on pourra planter de la vigne. Et bien, vous voyez, on a été plus vite que prévu, signe du changement climatique. Et sur mon exploitation, un autre exemple que je peux vous donner, c'est que je me suis mis à faire du melon il y a quelques années, alors que je ne pensais pas, et on fait des très bons melons. Alors bien sûr, il faut juste mettre les couvrir, mais juste avec un simple tunnel froid. Pas des tunnels chauffés, hein, des tunnels juste protégés de la pluie. Et en fait, on arrive à faire des très bons melons en juillet-août. On ne les a pas au mois de mai, évidemment, comme en Vendée, mais on a des très bons melons d'été. Et voilà, c'est un autre exemple. Et la biodiversité, dernier exemple, on dit qu'il n'y en a plus beaucoup, qu'elle est en baisse. Alors, certes, au niveau mondial, elle est en baisse, mais je peux vous avouer qu'il y a une nouvelle biodiversité qui vient du sud, justement, et qu'on voit nous apparaître dans nos champs. Et moi, je le vois tous les jours. On voit beaucoup d'insectes que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas là il y a 10 à 20 ans quand j'ai démarré mon métier de paysan. Et donc, je pense que ça peut être bien aussi, en se disant, bon, il faut voir le verre à moitié plein. Hein. Je ne dis pas que, voilà, évidemment qu'on sait qu'il y a une baisse de certains oiseaux, de certains insectes. Et il y en a d'autres, ça c'est peut-être réconfortant, qui arrivent et qui prennent le relais parce qu'on change nos modes de culture. Et comme on essaie de baisser le plus possible maintenant les phytosanitaires, etc., on voit que la vie du sol revient. Et elle revient vite, plus vite que ce qu'on pense. Donc voilà, moi je veux être vraiment positif, parce que c'est mon métier, j'y crois, et je suis aussi consommateur en premier. Je mange mes produits, donc je veux dire, j'ai les mêmes intérêts que tous les consommateurs qui vivent en ville ou à la campagne, c'est d'avoir, le trouver l'équilibre entre économie, le goût des produits et la protection de l'environnement.
Alors, si on parle de patrimoine en termes de culture, mais par rapport aux semences, par exemple, est-ce qu'il y a une vraie interdiction de semer ce qu'on veut? Est-ce qu'il y a une limitation des variétés de semis? Est-ce qu'il y a des normes qui empêchent de préserver les semis paysans, entre guillemets? Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle.
Oui, donc en effet, en France et partout dans le monde, il y a des réglementations sur l'utilisation des semences. Alors, je ne connais pas 100% de ces réglementations, mais elles ont été faites pour préserver la qualité des semences surtout. Donc en fait, pour que quand on sème, allez, j'ai envie de dire 100 grains de blé, il y en ait quand même 95% qui lèvent. Et si on fait, quand on fait de la semence fermière, finalement, on est obligé d'augmenter la dose parce qu'on sait qu'il y a un pourcentage qui ne lèvera pas. Bon, je simplifie un peu les choses pour les auditeurs, mais c'est ça. Donc c'est très bien quand on peut faire les semences fermières, et elles sont encore autorisées, hein, il me semble, en France, hein, les semences fermières. Mais il y a des nouvelles réglementations qui sont un peu plus draconiennes, en effet, ces dernières années, qui impose d'acheter une partie quand même, je pense, de semences certifiées, il me semble. C'est peut-être ça dont vous voulez parler.
Non, en fait, moi, je voulais parler de semences qu'on pouvait semer, pas vendre.
D'accord. Donc oui, en effet, vous avez raison. Pour sa propre production, on peut semer ses propres semences, mais on n'a pas le droit, en effet, de vendre, en effet, sauf si elles sont certifiées. C'était le parallèle. Il faut les faire certifier, et ça coûte cher, évidemment, de les faire certifier quand on est juste un simple agriculteur. C'est vrai.
Donc, on comprend qu'il y a des effets d'échelle aussi, qu'une petite, une petite entreprise. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'entreprise pour le monde agricole, mais quand même. Hein. Donc, il y a des entreprises plus ou moins industrielles, on va dire. Donc, jusqu'à quel niveau on peut considérer qu'une entreprise agricole reste responsable?
Ah, c'est un long débat. Bon, comme je vous disais, en France, on n'a pas beaucoup d'exploitations de milliers d'hectares. On est plutôt de l'ordre, la moyenne, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est plutôt 60 à 80 hectares en moyenne, hein, de nos deux départements. Même si on prend les départements des Hauts-de-France, hein, les cinq départements, avec la Somme, l'Oise et l'Aisne, peut-être les tailles sont un peu plus importantes quand on va vers Paris, mais ça reste des exploitations à taille humaine. Je sais qu'on parle souvent d'agriculture industrielle. Bon, ça, croyez-moi, en France, ça touche peut-être même pas 1%. Même pas.
C'est un peu comme l'histoire des fermes 1000 vaches, etc. Il y en a relativement peu, mais quand il y en a, ça fait parler.
C'est ça, voilà. Il y en a, c'est peut-être justement parce qu'il y en a peu que ça fait parler. Mais bon, tant mieux. Donc, on a la chance dans notre pays d'avoir une agriculture à taille humaine. Je le dis pas parce que je suis agriculteur, hein, c'est ce que je peux voir. Et quand on va au Brésil, c'est des milliers d'hectares et le bétail est dans la boue, alors que chez nous, il y a encore beaucoup les prairies, enfin je veux dire les montagnes, il y a toutes ces zones de montagnes, il y a toutes ces zones de d'Avenois qu'il n'y a pas dans les autres pays. Et c'est une chance. Je pense qu'on ne regarde pas souvent la chance qu'on a dans notre... On critique beaucoup, hein, parfois notre agriculture. Je peux vous avouer qu'elle a été primée plusieurs fois dans les trois premières agricultures qui concilient l'environnement. Et oui, qui l'eût cru, mais c'est vrai, qui concilie l'environnement et la production alimentaire de qualité dans le monde. Et pas par des Français, hein. C'est d'autres quotidiens mondiaux qui ont cité la France comme exemple pour préserver à la fois l'environnement, même si tout ne va pas, on est d'accord, hein, ça ne veut pas dire que tout va bien, mais c'est l'une des agricultures les plus familiales et à taille humaine encore. Comme je vous l'ai dit, voilà, l'agriculture industrielle, oui, mais elle représente moins de 1% et peut-être même moins encore du nombre d'exploitations. Donc c'est une chance pour... continuons à maintenir... Enfin, moi, je souhaite qu'on souhaite maintenir le plus d'agriculteurs et installer le plus de jeunes possible. Continuer à avoir une agriculture gagnant-gagnant pour les consommateurs, pour l'environnement et pour, évidemment, qu'elle soit viable pour les agriculteurs, parce que c'est important. Une agriculture qui n'est plus viable économiquement ne peut pas l'être non plus environnementalement, puisque ça veut dire que les agriculteurs arrêteraient. Et plus il y a d'agriculteurs, mieux c'est pour l'environnement aussi, parce que ça veut dire qu'on aura des exploitations gérées par des familles et des agriculteurs.
Donc, après, il y a des phénomènes actuellement, un peu vicieux, c'est-à-dire les gens étant de plus en plus pauvres, il y a une paupérisation de la population, même les classes moyennes commencent à être touchées, hein, ce qui fait que l'agriculture biologique commence à être impactée, puisqu'il y a moins de débouchés, et donc il y aura moins, ceux qui sont engagés dans cette façon de produire risquent de, je sais pas, ils ont peut-être engagé des financements personnels.
Oui, c'est un problème depuis, on le voit depuis surtout là, 2 ans, hein, avec l'inflation, hein, faut dire voilà, le pouvoir d'achat qui diminue, l'inflation brutale suite à la guerre et la guerre en Ukraine aussi. Hein, tout ça, c'est 30% des échanges mondiaux, hein, qui sont concernés avec deux pays, hein, la Russie et l'Ukraine. Tout ça fait que les gens, ben, ils tranchent et souvent. Malheureusement, c'est l'alimentation qui passe en dernier dans leur budget. Alors qu'il y a 30 ans, c'était le premier. La première chose que les gens voulaient, c'était l'alimentation. Ensuite, c'était loger leurs enfants et les éduquer. Et ensuite, les loisirs venaient en dernier. Maintenant, comme vous le savez, bon, le logement prend une part importante et l'énergie. Les loisirs arrivent quasiment en deuxième à égalité, presque. Et puis, l'alimentation, c'est un peu la variable d'ajustement. Et on le regrette parce que, d'ailleurs, qu'elle soit bio ou pas bio, le tout, c'est de choisir une alimentation de qualité. La qualité et le goût, c'est indépendant. D'ailleurs, il y a 60 millions de consommateurs ou que choisir l'a démontré. Hein. C'est le goût, c'est surtout le fait de choisir des aliments de qualité qui soient le plus local possible parce que du coup, ils auront leurs vitamines qui seront préservées, qui n'ont pas fait des milliers de kilomètres. Quelque chose de bio qui vient de l'autre bout du monde, et il y en a beaucoup qui sont importés en France, hein, faut savoir, hein, il y a plus de 60% de produits bio importés en France. Et ben, je ne vois pas en quoi il apporte quelque chose de nutritif. Mieux vaut consommer local, bio ou pas d'ailleurs, hein, mais local, et puis surtout ben, essayer de choisir. Si on n'a pas les moyens d'acheter des choses chères, il y a des choses pas trop chères de qualité. Le tout, c'est que ça n'arrive pas en dernier dans le budget. Et voilà, il ne faut pas acheter toujours le dernier smartphone avant d'acheter son alimentation, je pense.
Alors, certaines personnes considèrent que comme la médecine est remboursée, on va dire gratuite quasiment, on peut faire l'impasse sur une nourriture de moindre qualité puisqu'après on sera soigné. À l'inverse de la Chine où on dit pour ne pas être malade, il faut commencer par manger des choses qui sont en même temps des médicaments sans être des médicaments, mais qui contribuent à la santé. Donc si on se prive de qualité de nourriture, hein, ça va se reporter sur la santé. Donc les coûts vont aussi exploser ou alors on ne se soignera plus.
C'est vrai. Bah, j'écoutais d'ailleurs, alors je ne suis pas un spécialiste là-dessus, mais j'écoutais une diététicienne, hein, qui parlait à la télé sur ce sujet, qui disait il n'y a pas besoin de manger cher, il faut manger équilibré, un peu de tout. Alors ça sous-entend qu'il ne faut pas être allergique à tout non plus ou penser qu'on est allergique à tout. Parce que, bah, y a des choses. Et manger un peu de protéines animales, contrairement à ce qu'on pense, un peu de protéines végétales, et pas que des protéines végétales, mais je respecte ceux qui font le choix d'être végétariens, mais les diététiciens et l'ensemble des médecins, en tout cas la majorité, parce qu'il n'y a jamais l'ensemble, hein, considèrent, et même des sportifs qui étaient passés végétariens, maintenant reviennent en disant non, on a besoin d'un équilibre, on ne peut pas manger que des protéines animales, végétales. Il faut manger un peu de tout, des fruits, des légumes, des protéines végétales bien sûr, des protéines animales pas trop mais un peu, donc il faut mieux en manger, on en fait une fois par semaine que d'en manger tous les jours, ça on est d'accord. Il faut choisir ce qu'on veut manger et on est ce qu'on mange, en effet. Comme vous dites, bah, tous ces pays-là, ils ont raison. Hein. On est ce qu'on mange, mais il faut manger un peu de tout. Et c'est la priorité, en fait. Je pense qu'il faut qu'on retrouve des priorités dans notre vie.
Alors, pendant longtemps, on a considéré que l'homme était omnivore. Certains ont décrété qu'on ne l'était plus, c'est ça ?
Là, vous m'emmenez dans un débat. Mais bon, comme je vous dis, moi, je suis quelqu'un qui respecte toutes les formes. J'espère juste que les autres, que ceux qui font le choix d'être végétariens ou même des végétaliens, puisqu'il y en a qui ne veulent plus manger grand-chose ou qui pensent que ne plus manger grand-chose, ça va les sauver ou les faire vivre plus longtemps, je les respecte, en fait. Je leur demande juste de respecter aussi ceux qui mangent de tout. Et qui, eux, ont une vie très équilibrée également. Et je pense que, voilà, il faut savoir se respecter et pas vouloir imposer son régime alimentaire aux autres. Voilà, je pense que du temps des dinosaures, hein, personne n'imposait rien à personne. Et non, mais je le dis ça en rigolant. Je pense qu'en fait, voilà, chacun fait son choix. Parfois, il y en a qui en reviennent. Parfois, il y en a qui sont heureux de manger de la viande ou de ne pas en manger. c'est un libre choix et moi je souhaite juste qu'on préserve, si on veut préserver les prairies, n'oublions pas qu'il faut préserver l'élevage aussi. Si on veut préserver les puits de carbone, je le dis aussi puisque c'est le débat sur l'eau, l'infiltration d'eau, il faut préserver les prairies. Qui dit prairies, s'il n'y a plus de zone d'élevage, donc si on mange plus de viande, il n'y aura plus de prairies.
Des zones d'élevage sur des prairies, pas dans des fermes de 1000 vaches ou des porcheries à 500 000 porcs.
Comme je vous l'ai dit, mais en France, on n'a pas trop ce problème-là. Donc, comme vous dites, ceux qui ont essayé, il y en a qui ont essayé de regrouper. C'était des regroupements, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit, des regroupements d'exploitation qui ont pu aller entre 500 et 1000 vaches. Je vous le dis, autour de nous, c'est plutôt 5000 à 10 000 autour de nous, dans les pays qui ne sont pas si loin de nous. Donc, je pense qu'en France, on n'a quasiment pas... Les trois quarts des gens ont des cheptels de 40 à 80, 90 vaches maximum. C'est vraiment... moins de 1, mais même moins de 0,5% ceux qui dépassent les 100 vaches. Je pense que c'est pas un trop gros problème pour le moment et je pense pas qu'en France on souhaite aller vers cette voie-là de toute façon.
Donc dans le film qu'on vient de voir, on voyait, vu du ciel, ces magnifiques paysages, j'allais dire ciselés par le monde paysan, avec une esthétique. Alors, est-ce que quand on est fermier, paysan, agriculteur, on a conscience de ce que produisent les formes qu'on met en œuvre, vu du ciel? Est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe là-haut? On devrait emmener, à la limite, tous les paysans voir leur travail, leur œuvre. Un petit voyage gratuit, payé par la région, allez.
Un petit voyage en montgolfière, pour voir les beautés de nos paysages. C'est vrai qu'on oublie souvent que les paysages, et c'est pourquoi d'ailleurs on accueille autant de touristes du monde entier qui adorent nos régions françaises. Finalement, on se dit que parfois il n'y a que les Français qui critiquent leur paysage et leur agriculture. Mais on a cette chance de façonner avec des multiples productions, donc des multiples couleurs, et des multiples formes géométriques, et parfois pas géométriques d'ailleurs. C'est magnifique ce qu'on a pu voir au début de ce film. Ça, j'ai beaucoup aimé les premières photos. Et c'est ça d'ailleurs, les trois quarts de l'année, il faut dire ce qui est, heureusement les coulées de boue, c'est epsilon, tant mieux. Et on souhaite qu'elles soient le moins nombreuses possibles. On va faire en sorte tous qu'elles soient les moins nombreuses possibles. Ça, c'est les phénomènes aussi climatiques. Il y a une part de mystère dans les coulées de boue. Il y a une part de technique, mais il y a une part de mystère aussi. Ces paysages magnifiques, moi j'aimerais qu'on puisse les voir en effet de haut. Alors Monsieur Fruitier dans le film, il a un petit avion, il a de la chance de pouvoir les voir régulièrement. Et là on se rend compte à la fois de la fragilité aussi parfois, et à la fois de la beauté de ce que font les agriculteurs et les paysans de nos régions. Et ça je voudrais le dire aussi, c'est une fierté en fait pour nous tous. Et c'est une fierté, je pense que ça doit être une fierté pour les habitants de tous les habitants de notre pays et de nos régions. Je voudrais leur dire que nous, on cultive, c'est une passion cultiver, nourrir le monde, nourrir surtout la France, parce qu'on a pour but de nourrir déjà notre propre pays surtout, et nos voisins. Ça, c'est vraiment ce pourquoi on fait ce métier et ce pourquoi moi je vis en fait. Et je me réveille tous les matins quand je me promène, que j'écoute en effet le chant des oiseaux, et il y en a encore beaucoup, je peux vous avouer, autour de chez moi, donc tant mieux. C'est qu'on fait pas si mal que ça, et on fait, j'espère, un beau métier. En tout cas, moi j'en suis persuadé.
On espère que vous pourrez le faire le plus longtemps possible, avec peut-être une retraite quand même.
Oui, j'espère aussi. Pour l'instant, on n'y pense pas trop, mais si vous avez raison, écoutez, il faut qu'on essaye de mettre de côté un petit peu, comme on dit. On dit souvent, ça a eu payé, mais ça ne paie plus. On essaye quand même de mettre de côté les bonnes années, heureusement. Et puis oui, j'espère que je pourrai quand même avoir une petite retraite pour pouvoir profiter après de toutes les beautés de nos régions.
Après, vous témoignez le bon sens paysan, ça existe encore ?
Ah oui, moi 100%, je suis pour le bon sens paysan, et bien sûr que ça existe encore en France, d'ailleurs bien plus en France qu'ailleurs, et bien plus dans notre belle région Hauts-de-France et dans nos chers départements qui sont très diversifiés. Et c'est vraiment une chance, je le redis, et vive l'agriculture, vive l'environnement, et vive la conciliation de ces deux. Et je pense que les agriculteurs, je voudrais terminer là-dessus, on vit 7 jours sur 7, nous, dans la nature. Et donc faites-nous confiance, j'ai envie de dire, écoutez-nous. Et on vit avec la nature, on travaille avec la nature et on connaît sa fragilité. Donc on veut la préserver parce que c'est notre outil de travail et c'est pour nourrir la population. Donc en fait, voilà ce que je voulais vous dire.